Il y a de cela quelques semaines, au Mali, le Premier ministre Choguel Maïga était à Ségou dans le cadre de l'ouverture du festival sur le Niger. L'occasion était bonne pour lui d'évoquer les opérations militaires en cours au centre du pays, précisément dans la région de Ségou. Les FAMA engrangent donc des succès. En effet, dans son intervention, fortement appréciée par l'assistance, le Premier ministre avait brillamment évoqué la situation sécuritaire dans le pays. Une situation marquée par une offensive généralisée des FAMA. Depuis plusieurs semaines, en effet, les forces armées maliennes mènent des opérations d'envergure contre les groupes terroristes dans plusieurs régions du pays, plus précisément dans les localités du centre. Le chef du gouvernement dira que ces opérations enregistrent des succès partout. Et Choguel Maïga a précisé que ces succès sont obtenus grâce aux hommes et donc par la mise à disposition d'équipements aériens et terrestres. Et cela démontre, si besoin, le souci constant des plus hautes autorités du pays de préserver la vie des troupes engagées sur les différents théâtres d'opérations à travers le pays. Aujourd'hui, l'armée malienne est en train d'être dotée de moyens pour accomplir sa mission de protection des personnes et de leurs biens, et aussi de reconquête du territoire national. Aujourd'hui, les dernières victoires enregistrées par les FAMA dans la région de Mopti confortent les propos tenus par le Premier ministre à Ségou. En effet, au centre du Mali, donc les forces armées maliennes ont annoncé avoir neutralisé 203 terroristes à Moura. Un massacre de civils dans le même village, donc situé dans le cercle de Djéné par les terroristes, est évoqué aussi dans certaines publications sur les réseaux. Les autorités locales de Djéné ne confirment pas évidemment ces allégations, mais la MINUSMA se dit préoccupée. 203 terroristes neutralisés, 51 personnes interpellées, 200 motos brûlées, des armes et munitions saisies. Selon l'armée malienne, c'est le bilan des opérations de grande envergure menée dans la zone de Moura. Les forces armées maliennes ont indiqué que ces opérations se sont déroulées entre le 23 et le 31 mars dernier. Elles précisent dans un communiqué que c'est le fruit des renseignements bien précis sur une rencontre entre les différents Katiba, donc à Moura. Cette localité est le fief des terroristes depuis quelques années maintenant, comme l'ont martelé les FAMA. L'armée souligne que les personnes interpellées ont été transférées après donc leur première audition au pôle judiciaire spécialisé chargé de l'instruction des affaires de terrorisme. Une autorité locale donc de Djéné ne confirme absolument pas la mort des civils, contrairement à la MINUSMA. Ce communiqué des FAMA donc intervient au moment où des publications sur des réseaux sociaux donc font état de nombreux civils tués dans le même village de Moura. Une autorité locale du cercle de Djéné n'a pas confirmé donc ces allégations. L'autorité qui a requis l'anonymat a affirmé qu'elle aussi donc elle a vu les publications sur les réseaux sociaux, mais n'a pas eu écho de cela sur le terrain. L'état-major général des armées, dans son communiqué, a invité les populations à la retenue contre les spéculations diffamatoires à l'encontre des FAMA. Les forces armées maliennes affirment poursuivre la sécurisation dans la zone et rappellent que le respect des droits de l'homme reste une priorité dans la conduite des opérations. Mais de son côté, la MINUSMA tire la sonnette d'alarme et continue de condamner toute violence contre les civils. Dans un tweet, la MINUSMA donc dit être informée des confrontations entre les FAMA et des groupes terroristes à Moura. Donc, elle s'est dite préoccupée, très préoccupée, même par les allégations de violences survenues contre des civils, et condamne toute violence contre les civils. La MINUSMA précise aussi dans sa publication qu'elle est en concertation avec les autorités maliennes pour établir les faits et les circonstances. La MINUSMA promet aussi une action permettant de répondre aux besoins immédiats, y compris sécuritaires, des communautés affectées. La réalité, c'est qu'au fur et à mesure que les femmes avancent, la présence inutile de la MINUSMA donc est remise sérieusement en question. D'ailleurs, ces derniers jours, lors de nombreux meetings qui ont eu lieu à Bamako, les revendications des Maliens sont claires. Concernant la MINUSMA, ils demandent le non-renouvellement sous aucun prétexte du mandat de la MINUSMA. Donc, même avec la mise à la porte des troupes militaires occidentales, la présence de l'ONU continue de mener donc la mission de déstabilisation du pays cible. La Centrafrique et l'Est de la RDC en sont de parfaits exemples. Cela dit, en Centrafrique, la MINUSCA est sous la loupe et a du mal à faire un geste sans être contrôlée. Mais malgré cela, la mission parvient tout de même à faire passer des armements aux groupes rebelles. En RDC, c'est surtout la population congolaise qui condamne la présence de la MONUSCO et qui met des bâtons dans les roues de l'instance, dont la présence est tout aussi controversée au sein de la population. Au Mali, la MINUSMA se sent réellement en danger, car avec les avancées donc des FAMA, il est clair que la mission de l'ONU est en net recul, tout comme celle de ses alliés terroristes. La CEDEAO continue de creuser sa propre tombe. Au Mali, les meetings se multiplient à Bamako, mais avec les revendications qui sont toujours les mêmes. Les Maliens demandent entre autres l'arrêt immédiat des missions de la CEDEAO au Mali, le retrait pur et simple du Mali de la CEDEAO, la création d'une monnaie nationale, symbole de souveraineté, la fermeture puis la nationalisation de toutes les entreprises et sociétés françaises au Mali, le non-renouvellement sous aucun prétexte du mandat de la MINUSMA, la révision intelligente de l'accord d'Alger. Les mouvements ont aussi donc réaffirmé leur soutien indéfectible aux recommandations des Assises nationales de la refondation en ce qui concerne donc la durée de la transition. Ils proposent un plafond de 5 ans sur la fin de la transition en cours. Le courage du gouvernement malien fait beaucoup plus d'effet qu'un régime de sanctions illégales et ça devient compliqué pour la CEDEAO en ce moment. La Cour de justice de l'UMOA donc, a rendu une décision importante dans la crise entre le Mali et la CEDEAO. Dans une décision donc publiée le 24 mars déjà, la juridiction avait ordonné la suspension des sanctions économiques adoptées par les chefs d'État de l'organisation sous-régionale contre le Mali et cela suite à une requête introduite par les autorités de la transition. Les chefs d'État de la CEDEAO réunis en sommet extraordinaire à Accra le 25 mars avaient décidé donc de maintenir les sanctions contre le Mali, que vaut alors une décision de justice si elle n'est pas appliquée. Les dirigeants de la CEDEAO et l'UMOA ont-ils du respect pour leur propre juridiction ? En effet, donc, la Cour de justice de l'UMOA a ordonné donc, la suspension des sanctions économiques imposées donc, au Mali par l'UMOA et la CEDEAO. Et pour rappel, ces sanctions ont été prises lors du sommet extraordinaire tenu à Accra, au Ghana, le 9 janvier 2022. Le gouvernement malien, par le biais d'un collectif de 6 avocats, avait saisi donc, le 2 février 2021 la Cour de justice de l'UMOA de 2 recours contre les décisions issues de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA en date du 9 janvier. Le premier visait donc à obtenir de la Cour de justice de l'UMOA l'annulation des décisions prises contre le Mali. Le second sollicitait la suspension de l'exécution des sanctions eu regard aux effets gravement préjudiciables à l'État du Mali, aux populations maliennes et africaines vivant au Mali. La Cour s'est donc prononcée le jeudi sur la deuxième recours, donc aussi par voie de communiqué. Nous déclarons la requête aux fins de sursis à exécution introduite par l'État du Mali recevable en la forme et ordonnons le sursis à l'exécution des sanctions prononcées par la conférence des chefs d'État et de gouvernement, donc de l'UMOA, lors de sa session extraordinaire tenue à Accra le 9 janvier en figure de son communiqué final. Cependant, les chefs d'État de la CEDEAO, réunis le vendredi 25 mars à Accra, ont décidé de maintenir les sanctions prises contre le Mali. Les chefs d'État de la sous-région ne donnent-ils pas raison à leurs détracteurs qui affirment sans embâge qu'ils sont à la solde d'Emmanuel Macron ? Ce dernier n'a pas hésité de dire, donc, après la fermeture de RFI et de France 24, qu'il s'entretiendra avec le président ghanéen au sujet du Mali. Les maintiens des sanctions contre le Mali par les dirigeants de la CEDEAO n'a donc aucune base juridique. Comment comprendre que ceux qui sont censés représenter l'autorité, la loi et le droit sont les premiers donc à les ignorer dès lors qu'une décision n'est pas à leur faveur? À quoi sert-il alors d'avoir des juridictions communautaires si leurs décisions ne sont pas respectées? Sans grande surprise, le sommet d'Accra donc ne pouvait avoir d'autres objectifs que d'essayer de faire plier le Mali à travers son chef d'État, Assimi Goïta, qualifié d'indocile selon eux. Il n'y était donc convoqué donc, que pour être réprimandé et même dans le pire des cas, y être probablement pris dans un piège. Comme il fallait naturellement s'y attendre, les ordres donnés depuis Paris ont été exécutés à Accra par les chefs d'État africains dans le but de donner davantage de gages à la soif de vengeance du président Macron contre le Mali. Actuellement, le comportement de la CEDEAO montre de plus en plus donc que cette instance n'a aucunement un rôle constructif, même si en réalité et surtout en toute indépendance, il aurait un très bon rôle à jouer justement en Afrique de l'Ouest. Mais évidemment, sans indépendance, aucune instance ne peut rien faire du tout. Mais pourquoi se forcer donc à suivre les diktats de Paris ou encore de Washington qui, eux, ont pour seul but de se redéployer militairement? Surtout Washington qui serait prêt à prendre tous les pays d'Afrique sans aucune exception juste pour continuer à tenir l'Europe sur son joug en leur lançant des petites miettes comme toujours, mais surtout pour empêcher aussi des pays du bloc de l'Est comme la Russie, la Chine ou l'Iran de prendre position aux côtés des pays africains. Car ce genre d'alliance amènera à des soulèvements anti-impérialistes et cela n'arrange certainement pas les défenseurs de l'hégémonie impérialiste occidentale. Si ces puissances occidentales n'étaient pas derrière ces coups fourrés, il est clair que les condamnations auraient déjà afflué. Mais comme toujours, c'est le silence complet niveau international. En attendant, la France a endossé le rôle du mauvais flic en continuant de vouloir noyer le Mali sous des sanctions et les États-Unis continuent donc de garder la casquette du bon flic en tentant des petites manœuvres qui consistent à vouloir apaiser les tensions entre le Mali et la CEDEAO. Alors qu'à travers la visite de l'émissaire américain Peter Pham, Washington a bien montré qu'en un claquement de doigts, il pouvait faire lever les sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Il est également possible que le fait de maintenir le Mali sous sanctions illégales pourrait créer une sorte de division à long terme au sein du continent africain, comme cela a été le cas donc avec la Russie durant le conflit en Ukraine. Donc, soit vous êtes pour le Mali et donc vous êtes considéré comme un ennemi, soit vous êtes contre et vous êtes des nôtres. C'est le jeu préféré des Occidentaux. Mais vont-ils réellement arriver à diviser l'Afrique de cette manière ? En bref, à ce rythme-là, la CEDEAO ne va vraiment pas faire long feu, mais ce serait peut-être bénéfique pour un pays souverainiste comme le Mali qui n'a absolument pas besoin de la CEDEAO ou de qui que ce soit pour se relever.
Ces jeunes gens aujourd'hui qui se sont soulevés contre des sanctions inhumaines, injustes, illégales, prises à l'encontre de notre pays par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest le 9 janvier, je crois qu'il est un signe extrêmement fort. C'est le signal que le Mali et le Sénégal sont deux États, mais c'est un seul peuple. C'est aussi le signal que nos populations sont malheureusement, Monsieur le Président, en avance sur nous-mêmes, dirigeants, parce qu'ils savent ce qui nous unit, ils connaissent la profondeur de nos relations, des liens séculaires que nous avons, des liens de parenté, parce que certains aiment à dire que nous sommes des pays frères, mais j'irai même plus loin pour dire que nous sommes même des pays parents. Moi-même qui vous parle aujourd'hui, si vous prenez mon patronyme, mon nom de famille, on peut dire que je suis plus sénégalais que malien, mais je crois que nous revendiquons ces identités et ces appartenances multiples. C'est dire qu'aujourd'hui, vous sympathisez avec les Maliens. Et nous savons que ces sanctions, l'impact négatif sur notre pays n'est pas seulement que sur les populations maliennes, mais c'est aussi sur les populations sénégalaises. Nous le vivons. Mais aussi, votre geste, c'est pour dire que ces sanctions ne constituent pas une solution. Et que toute décision que nos dirigeants doivent prendre doivent tenir compte de l'impact sur les populations que nous servons au quotidien. Je crois que c'est un message à l'endroit de nos chefs d'État et de gouvernement de la région, mais c'est aussi un message à l'endroit de la communauté internationale de prendre le temps d'étudier, de comprendre nos pays, nos populations, de prendre en charge leurs aspirations et de ne rien faire qui puisse compliquer la situation que nous vivons déjà au quotidien avec une juxtaposition, Monsieur le Président, de crise sécuritaire, crise politique, crise économique, crise sociale. Et je crois qu'aujourd'hui, ces jeunes gens nous ont donné une belle leçon en prenant sur eux la souffrance de pouvoir marcher 1000 et quelques kilomètres pour pouvoir être parmi nous aujourd'hui. Je voulais très humblement, au nom de mon collègue, vous souhaiter la bienvenue, saluer votre geste et souhaiter que ce geste puisse aussi être pris en charge par les dirigeants de la région qui n'ont déjà pas écouté l'appel de la Cour de justice de l'Union économique monétaire qui a relevé le caractère illégal de ce geste. Aujourd'hui, vous, peuple, vous êtes ici pour démontrer que cet acte est injuste, c'est inhumain. On doit se tourner, regarder les peuples. Les dirigeants devront aujourd'hui suivre les peuples pour qu'on puisse lever ces sanctions, pour que nos pays puissent cheminer, aller vers la stabilité, aller vers la sécurité, aller vers la solidarité, aller vers des liens économiques et des liens sociaux qui ont toujours tissé, j'allais dire irrigué, les relations entre nos pays. Je voulais très humblement, Monsieur le Président, avec votre permission, m'en arrêter là, et tout en saluant vraiment les efforts énormes que cette jeunesse a fait et aussi la belle leçon qu'elle est en train de nous enseigner ici au Mali et dans la région.
Les États-Unis continuent de se déployer en Afrique de l'Ouest, toujours dans sa stratégie de recolonisation de l'Afrique. Si la présence française prend fin dans un bon nombre de pays d'Afrique, ce n'est certainement pas pour être remplacé par Washington. La Côte d'Ivoire, devenue la nouvelle base arrière donc de l'Afrique comme des États-Unis et comme toujours contre la volonté du peuple ivoirien, sert maintenant d'extension à Washington pour s'installer en Afrique de l'Ouest, ou en tout cas là où il n'y a peut-être pas de base militaire française. L'ambassade des États-Unis au Togo annonce que le pays de l'oncle Sam envisage donc de s'implanter dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Togo, dans sa soi-disant stratégie de prévention des conflits et de promotion de la stabilité. Les États-Unis annoncent leurs intentions donc de s'étendre au Bénin, au Ghana, en Guinée et au Togo, donc pays côtier de l'Afrique de l'Ouest, qui entre donc dans sa politique de prise du monopole, dans un premier temps, du golfe de Guinée. Le gouvernement américain a annoncé donc son intention de s'associer à 5 pays côtiers d'Afrique de l'Ouest, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée et le Togo, dans le cadre de la stratégie décennale, comme il l'annonce, des États-Unis pour la prévention des conflits et la promotion de la stabilité. En réponse à des problèmes communs soulevés dans chacun donc, des 5 pays, cette stratégie permet donc aux États-Unis de travailler en collaboration avec les gouvernements et la société civile sur une approche régionale intégrée pour prévenir les conflits, promouvoir la résilience et la stabilité et favoriser le développement économique. Elle s'inscrit dans le cadre des liens historiques des États-Unis et des relations établies avec le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée et le Togo, et donc de leur désir de forger des liens plus solides vers des objectifs communs. Les États-Unis et le Togo ont un intérêt en commun à promouvoir la stabilité dans tout le Togo, comme en témoigne la création en août 2019, soutenue par le gouvernement américain, du comité interministériel de prévention de la lutte contre l'extrémisme violent. La stratégie américaine de prévention des conflits et de promotion de la stabilité offre des ressources supplémentaires, conjointement avec la stratégie nationale du Togo, pour prévenir l'extrémisme violent, afin de promouvoir la stabilité et de renforcer la résilience des communautés à risque du Togo. Donc en plus de l'Afrique de l'Ouest côtière, la stratégie américaine s'étend encore plus. Elle identifie Haïti, la Libye, le Mozambique et la Papouasie-Nouvelle-Guinée à titre de pays prioritaires. Chaque collaboration présente une opportunité unique de tirer parti des enseignements, de renforcer l'engagement du gouvernement des États-Unis aux côtés de ses partenaires et de favoriser conjointement la résilience face aux chocs politiques, économiques et naturels. Les travaux menés dans le cadre de la stratégie sur les zones côtières de l'Afrique de l'Ouest viendront compléter donc l'engagement continu du gouvernement américain en faveur de la paix et de la prospérité au Sahel et s'appuieront également sur le partenariat de longue date du gouvernement américain avec la CEDEAO. La stratégie s'appuie donc sur la diplomatie ainsi que la coopération et l'assistance au développement et au secteur de la sécurité pour obtenir des résultats communs. Elle vise à relever les défis locaux de manière plus efficace grâce à la flexibilité, à une analyse en profondeur, à de solides consultations faisant intervenir des partenaires locaux, nationaux et régionaux, et à la collaboration avec des organisations internationales et pour le développement. Les États-Unis veulent donc rafler la mise et transformer l'Afrique en un Somalie, Irak ou encore Afghanistan. Et tous ces pays dans la cible de Washington, qui veut donc s'en servir de base arrière pour ses opérations de colonisation, visent à chaque fois ou également un pays anti-impérialiste. En Afrique de l'Ouest, il s'agit aussi de prendre donc le contrôle du golfe de Guinée, mais aussi faire tomber ou rappeler à l'ordre rapidement des pays de la côte comme la Guinée équatoriale ou encore des pays donc du Sahel comme le Mali. Mais également de s'implanter dans des endroits encore plus stratégiques pour renforcer la présence militaire à travers le monde comme en Haïti ou alors le Mozambique. ce qui leur permettra donc de saboter plus facilement les coopérations entre les pays qui œuvrent pour un monde multipolaire. Car évidemment, la France a peur de se faire éjecter de l'Afrique. Certes, c'est un fait, car grâce à elle, donc, elle se sert dans les sous-sols pour puiser ce qu'elle a besoin gratuitement. Mais les États-Unis sont en train de perdre leur monde hégémonique dans leur tête dirigée par eux-mêmes. Car évidemment, de plus en plus de pays à travers le monde optent pour un monde multipolaire et pour la fin de la politique hégémonique impérialiste qui a conduit le monde à sa perte. En regardant les pays dans le monde entier dans lesquels il y a une présence militaire américaine, aucun ne s'en est sorti indemne.
Au Tchad, trois grands projets sont en train d'être réalisés dans le secteur des communications électroniques, des sports et de la formation professionnelle au bénéfice du Tchad, a annoncé samedi sur sa page Facebook l'ambassade de la République populaire de Chine au Tchad. Le premier projet concerne la modernisation des infrastructures et des communications électroniques. Les travaux sont réalisés à plus de 51%. Il se compose principalement de trois parties. La construction d'un centre de données national, la modernisation du groupe Sotel et la pose de la fibre optique. Le deuxième projet a pour objectif la construction d'un stade à N'Djamena, la capitale tchadienne. Le troisième projet concerne la construction d'une école de formation professionnelle qui comprendra des salles de classe, des laboratoires, des ateliers d'opération, des dortoirs pour enseignants et élèves. Depuis le rétablissement des relations diplomatiques avec la Chine en 2006, le Tchad a bénéficié de plusieurs grandes réalisations. Une maison de la femme, un palais de la démocratie, une raffinerie à Djarmaya, à 60 km au nord de la capitale, des routes, des ponts et des écoles, sans compter une coopération dans le secteur de la santé. Au Cameroun, l'État pourrait décaisser jusqu'à 1,4 milliard de francs CFA pour construire le port sec de Ngaoundéré. Les travaux du projet de port sec de Ngaoundéré, région d'Alamaoua, pourraient coûter 1,4 milliard de francs CFA selon le ministre des Transports Jean-Ernest Masséna-Bibé. D'après le membre du gouvernement qui s'exprimait vendredi 1er avril à la représentation nationale, cette enveloppe sera puisée dans le budget d'investissement public du ministère de l'Économie pour l'exercice 2022 et suivant. Le ministre en a profité pour faire une mise au point. Le gouvernement n'a en ce moment que deux projets de port sec, un à Ngaoundéré et un autre à Garoua. Il a également démenti les rumeurs faisant état de la construction d'un port sec à Obala, à une trentaine de kilomètres au nord de Yaoundé ou encore à Nomayos, à l'entrée est de la capitale. Il s'agit plutôt de bases logistiques pour de grands projets d'infrastructure. Au Nigeria, trois projets routiers ont obtenu les approbations de financement du gouvernement fédéral. Le Conseil exécutif du Nigeria, réuni mercredi 30 mars, a donné son accord pour l'attribution de financement au profit de trois projets routiers. Premièrement, un budget de 13,624 milliards de naira qui sera consacré à la réhabilitation complète de la route Uturu-Isik-Vato-Akara dans l'état d'Abia à l'est du Nigeria. Ensuite, l'extension de l'autoroute Zaria-Sokoto-Birnin-Kebbi dont le linéaire total atteindra 64 km contre 26 km prévus initialement. Le budget initial passera ainsi de 9,446 milliards de naira à un total de 16,924 milliards de naira. La troisième signature du Conseil concerne la réhabilitation de la route Kevara Peta Milda dans l'état de Borno au nord-est du pays. Inauguration du nouveau stade municipal d'Abouasso en Côte d'Ivoire. En marge du lancement du projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique, ce samedi 2 avril 2022, le Premier ministre Patrick Hachi a procédé à l'inauguration du nouveau stade municipal d'Abouasso, baptisé Complexe sportif Dr Eugène Aka Aouele, en présence du ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'Économie sportive Claude Pauline Dano. Le choix du nom pour désigner cet ouvrage tient sa source des consultations relativement larges effectuées par le ministre des Sports auprès des populations, a révélé Patrick Hachi. Le chef du gouvernement a remercié le ministre Claude Pauline-Dano pour la qualité et la beauté de l'ouvrage qui à la fois sert naturellement les besoins sportifs des jeunes et des moins jeunes, mais également donne l'occasion à ces jeunes de s'occuper et d'occuper leur temps à des activités saines.